En entendant ces choses, je me suis dit, oui, c'est vrai, le Seigneur est à l'œuvre. Et le Seigneur a envie d'avoir des collaborateurs. Et nous revenons quelque part maintenant à nous. Et je vous propose de commencer cet après-midi par un petit moment où vous êtes devant le Seigneur, avec cette question toute simple dans votre cœur. Seigneur, qu'est-ce que de tout cela, y compris là maintenant cette partie en début d'après-midi, ou aussi ce que j'ai dit ce matin, qu'est-ce que de tout cela est important pour moi maintenant? Donc vraiment un petit moment où vous pouvez revenir quelque part à vous et à ce que le Seigneur est en train de faire en vous. Alors revenez à vous et oui, merci. Et à cette relation entre lui et vous, et ce qu'il aimerait faire, déclencher dans votre cœur dans cette journée. Seigneur, nous voulons vraiment de nouveau être pleinement devant toi en tant que personne. Tu as prévu cette journée dans le parcours, dans la vie de chacun de ceux qui sont ici. Parce que tu dis dans ta parole, dans le psaume 139, que tous les jours de ma vie, et c'est vrai pour chacun, a été inscrit dans ton livre avant qu'il n'y en ait eu aucun qui existe. Cette journée a une valeur pour toi. Elle a une valeur pour nous. Et nous aimerions pouvoir découvrir, recevoir, nous laisser motiver par toi dans ce que tu as sur ton cœur pour chacun personnellement. Merci Seigneur aussi d'être là pour traduire ce que moi je dirais dans les situations individuelles de chacun. Merci pour cette promesse, je suis là au milieu de vous. Amen. J'aimerais parler cet après-midi d'abord, et c'est comme enseignement un peu la fin de ce que j'aimerais dire dans cette journée, les conséquences de la vie dans l'amitié de Dieu. Et j'aimerais tout d'abord, un peu aussi de mon expérience personnelle, vous dire que si on vient sous ce joug, où nous avons eu l'invitation, venez sous mon joug. Si on vient sous ce joug, il y a un tas de choses qu'on apprend qu'on n'arrivait pas à faire avant. Et j'aimerais vous dire un petit peu ce que moi j'ai découvert quelque part, ce que j'ai appris dans cet essai d'être à la disposition du Seigneur pour ce qu'il voulait faire à travers moi. J'ai appris à le connaître mieux. Et j'ai constaté que Dieu, quelque part, il est tellement différent de nous. C'est lié au fait qu'il a une vue d'ensemble qui nous manque. Il n'est pas limité. Il n'est jamais dans le désarroi. J'ai constaté même que dans les plus grandes situations difficiles que je pouvais vivre personnellement, chez lui, quand moi je suis dans le trouble, chez lui, il y a toujours la paix. Toujours. Quand je viens dans sa présence, il y a la paix. Et cette paix, elle me rejoint quelque part. J'ai découvert aussi que Dieu agit souvent tout à fait autrement que ce que nous, on aurait fait et dit selon notre logique. Il y a plein d'exemples bibliques. On pourrait penser, je pense là spontanément un peu à ce petit bonhomme sur le sycomore, à Jéricho, Zachée. Jésus avait devant lui une journée entière avec des centaines de gens pour les enseigner. Et qu'est-ce qu'il fait de cette journée? Il laisse tomber ces centaines ou milliers, je ne sais pas combien exactement il y en avait, et il s'occupe d'une seule personne. Quelle idée curieuse! Pas du tout stratégique. Mais quelque part, on a vu dans ce texte de Jean 5 où il dit « Le Père me montre ce qu'il fait ». Le Père semblait lui avoir montré « Aujourd'hui, c'est le jour de Zachée ». Et pas de mille autres. Zachée. Et quand il part, il dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison ». Donc tellement étonnant quelque part dans ces décisions où je reviens à notre vie. Si moi j'avais été Dieu, j'aurais donné une chance à notre fils de 30 ans, pasteur, qui avait un cœur pour la France. Et moi, à l'âge de 65 ans, j'ai aussi un cancer et un arrêt de mort. Et j'ai dit, Seigneur, je pars avec plaisir. J'ai eu une très bonne vie. Et Seigneur m'a dit, stop, tu ne peux pas partir. J'ai encore besoin de toi. J'ai dû me décider. Ça m'a coûté d'être d'accord. Sinon, je ne serais pas là ici maintenant. Aucune logique, selon notre logique humaine, dans ces décisions que Dieu prend avec une très grande liberté. On apprend aussi dans ce sens à lui faire confiance, parfois sans le comprendre. Et on apprend sous ce joug qu'il y a une question qui n'amène jamais nulle part. C'est la question du pourquoi. J'ai eu, il y a une semaine, un congrès à Berne, une journée pour des personnes avec des vies cassées, couples cassés, catastrophes dans cette vie, etc. Et je leur ai dit au début, si vous voulez avoir une chance de guérir de ce que vous avez vécu, la première chose que je vous demande, c'est d'abandonner maintenant vos pourquoi. Vous n'aurez jamais de réponse de la part de Dieu. Si vous demandez à Dieu à quel but, afin de quoi, vous aurez peut-être une réponse. Mais jamais le pourquoi. On apprend sous le joug que le regard de Dieu est quelque part un regard sur notre avenir et pas sur notre passé. Quand Jésus est sur la croix et quand il dit « Tout est accompli », cette phrase a beaucoup de signification, mais elle veut aussi dire « Tout est accompli pour que tous ceux qu'il y a dans mon passé puissent être transformés en bienfaits si moi je suis d'accord de courir en avant. » Donc, lâcher prise sur les pourquoi et faire confiance à celui avec lequel nous sommes sous le même joug, qu'il nous amènera sur un chemin vers son but. On apprend quelque part aussi à réfléchir, à penser autrement. Dieu a une autre logique que nous, justement cette logique de la finalité, de ce « tout est déjà prêt, venez, entrez ». Donc, personnellement, je suis sous ce joug en vivant cela comme une expérience incroyablement intéressante. Et ça continue même à l'âge, si vous voulez. Je découvre de nouvelles choses sur Dieu et sur sa manière d'agir. Et à travers tout ce que je découvre, aussi à travers ces vécus difficiles, la mort de notre fils, mon cancer à moi, j'ai été guéri par lui. Je ne sais pas exactement quand et comment, mais cette partie en moi va très très bien. J'ai arrêté tout traitement médical, c'est bon. on apprend à travers toutes ces choses, et peut-être dans ces choses, pas malgré ces choses, à dire, Seigneur, tu es un Dieu plein de grâce. Tu es un Dieu plein d'amour. Je ne comprends pas toujours, mais c'est vrai, et je le maintiens. Et l'ennemi ne m'aura pas à vouloir implanter le doute par rapport à ton amour et par rapport à ta bonté dans mon cœur. Ah non, je lui résiste. C'est ça, la vérité. Il y a aussi lié à cette marche avec Jésus sous son joug un certain nombre de privilèges dans lesquels nous entrons. J'aimerais bien parler un peu de ces privilèges, mais j'aimerais encore une fois insister, comme je l'ai déjà fait avant la pause de midi. Vous savez, aussi quand vous prendrez des décisions à la fin de l'après-midi, avec ces décisions s'ouvrira devant vous un chemin d'apprentissage. Parce que l'homme ne se transforme pas à travers le fait de comprendre quelque chose. Mais la transformation passe par une décision et après la décision, on apprend à vivre dans quelque chose de nouveau. On apprend. Il y aura des rechutes. Ça ne marchera pas toujours. Pas de problème. Donc, nous soyons dans la réalité quelque part et vivre avec ces privilèges d'être l'ami de Dieu sous le joug de Jésus, ces privilèges aussi, il faut les apprendre. Un premier privilège, c'est sous ce joug, on devient libre. Oh. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Je vous traduis la réponse. Ou est-ce que je prie d'abord encore pour votre digestion? Je prie d'abord encore pour votre digestion, hein? Je vois que certains luttent. Ça se voit de devant. Et je sais comment ça se passe. En sursaut, il est toujours là, il parle toujours. Je prie vite. Hein. Seigneur, prends soin maintenant de cette digestion. Elle fait partie de ce que tu as créé. Et tu sais de combien de sang nous avons besoin dans notre cerveau pour pouvoir rester éveillés. Je te demande que tu veilles à cela et que par ton aide, nous puissions vraiment être encore présents maintenant. Et nous bénissons notre corps dans son travail qu'il fait. Amen. D'accord? Bon. Alors, premier privilège, la liberté face à sa digestion. Hein? Nous sommes dans le thème. Qu'est-ce que c'est que la liberté? La première chose que j'aimerais vous dire, c'est une phrase qu'un poète allemand a dit à la fin du XVIIIe siècle, 1799. Il a écrit une lettre à son fils Jean. « Brief an meinen Sohn Johannes ». Ce poète s'appelle Matthias Claudius. C'était un homme d'une sagesse, d'une grande simplicité et d'une sagesse très profonde. Il écrit à son fils, « N'est pas libre celui qui fait ce qu'il veut, mais est libre celui qui peut vouloir ce qu'il doit faire. » Encore une fois, n'est pas libre celui qui fait ce qu'il veut. Libre est celui, bon, je l'ai peut-être formulé autrement, mais le sens est le même. Libre est celui qui peut vouloir ce qu'il doit faire. Je vous ai donné ce matin un exemple dans la vie de Jésus de cette liberté d'arriver à vouloir librement ce qu'on doit faire. Vous vous rappelez? Quelqu'un fait la relation là? Quelqu'un pourrait dire le nom? Gethsémané. À Gethsémané, Jésus fait le nécessaire pour pouvoir vouloir ce qu'il doit faire, pour décider librement d'aller sur la croix. Comme il a dit, personne ne m'ôtera ma vie, je la donne librement. Alors, c'est cela. Vous vous rendez compte, Jésus était vraiment libre. Alors, quelque part, nous nous rendons compte, vous et moi, qu'il y a autour de nous, dans notre vie, plein de contraintes. Comment est-ce qu'on peut être libre dans ces contraintes? Comment Jésus a-t-il pu rester libre à travers le procès qu'il a vécu? Les accusations, etc. Quand on lit l'histoire, le récit de la Passion, on se rend compte que le seul libre dans tout ce qui se passe, c'est la victime, c'est Jésus. Il agit toujours en une pleine liberté. Il ne répond pas, il ne dit rien. Il ne se laisse pas manipuler et mettre sous pression. N'es-tu pas conscient du fait que ma vie dépend de toi? Il n'entre pas dans ce jeu, il reste libre. Quel est le secret de cette liberté? Là, nous venons à un point très important que j'ai déjà soulevé ce matin et qui est vraiment la réalité. Quelque part, l'homme ne peut pas être libre. Il ne peut plus. Il l'était une fois. Avant la chute, l'homme était libre. Et là, il a perdu une fois pour toutes. Alors, l'homme est un être dépendant. Et quelque part, on ne peut plus que choisir de qui on veut dépendre. Vous êtes là? Vous n'avez que le choisir, que la possibilité de choisir de qui vous voulez dépendre. Vous vous rappelez peut-être le petit dessin? Je le remets. Parce que ce petit dessin, il vous donne les choix que vous avez. Vous pouvez ou dépendre de Dieu, vous pouvez dépendre des autres, ou vous pouvez dépendre de vous-même. Vous savez laquelle des dépendances est la plus terrible? La dépendance de soi-même. Tout ce qui va dans le sens d'une, ce qu'on appelle dépendance, toxicomanie, etc. Toxicomanie, oui. Tout ça, c'est dépendre de vivre quelque chose avec une nécessité absolue. Aucune liberté. Il faut que je le vive. Dépendance des autres, ça me fait penser à une femme qui m'a dit, dans le premier entretien, elle avait à peu près 45 ans, elle m'a dit, tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à présent, c'était l'essai de gagner l'amour des autres. Oh. Je lui ai dit, vous avez réussi? Jamais. Jamais. On n'arrive pas à gagner l'amour des autres. On peut faire tout ce qu'on veut pour eux. On peut essayer de remplir toutes leurs conditions. On ne reçoit pas ce qu'on espère. La seule dépendance qui nous rend libres, vous voyez un peu, c'est un illogisme quelque part, hein, mais la seule dépendance qui nous rend libres, c'est celle de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu, dans sa personne, il poussera toujours à ce que vous restiez libres. Il ne veut pas une dépendance dans le sens de l'esclavage de quelqu'un qui serait dépendant parce qu'il est obligé. Il vous dira toujours, « Ah non, pour moi, ne le fais pas. Ou tu le fais librement, ou ne le fais pas. » Jésus a appris à rester libre face au Père. Gethsémané, c'était son acte, son combat pour rester libre face au Père. Il a donc choisi, et je peux le montrer par un autre transparent, d'ailleurs sur ce que je dis cet après-midi dans ma carrosse, vous auriez des détails et des choses que je ne peux pas dire cet après-midi, mais vous trouverez un peu les mêmes thèmes aussi dans ma carrosse. Il s'est sorti quelque part de ce qu'on appelle parfois le filet social, excusez-moi, dans lequel nous sommes tous quelque part dans cette dépendance face aux hommes. Et vous et moi, on n'arrivera jamais à ces 100% de dépendance de Jésus du Père. Et ça l'a laissé au niveau humain 0%. N'avait aucune dépendance de qui que ce soit de son entourage. À un moment donné, où les grandes masses qui avaient suivi au début Jésus commencent à le quitter un peu, vous savez, c'est connu. Il y a balai neuf, balai bien. Il y avait là un nouveau personnage et à la longue, quand on a compris un peu ce qu'il disait, il y en a pas mal qui se sont détournés. On dit bon, ouais, non. Alors il demande aux disciples, et vous? Vous voulez aussi me quitter? Bien sûr, on ne sait pas s'il a dit, et vous? Vous voulez aussi me quitter? Je ne peux pas m'imaginer Jésus suppliant ses disciples de ne pas l'abandonner. Il leur ouvrait les portes. Il dit, ne vous sentez pas obligés de rester avec moi. Liberté. Donc on n'arrivera jamais, nous, à 100 et 0. Mais si vous mettez de côté, par exemple, aujourd'hui, cet après-midi, des tendances que vous avez, par exemple, crainte des hommes, ou la tendance de vouloir satisfaire vos proches, la tendance de vouloir résoudre le problème de tout le monde. Si vous épousez ces choses, vous gagnez un petit peu plus de liberté face aux hommes, mais ça ne marchera seulement si dans ces choses, vous vous rendez dépendant de Dieu. C'est-à-dire, la démarche pour devenir libre face aux hommes, c'est de dépendre plus de Dieu. Un peu plus, un peu. On peut changer ce pourcentage. Hein? Vous n'arriverez pas à 100%. Et sur cette terre, vous et moi, on n'y arrivera pas. Mais on peut aller dans cette direction. Et c'est ça l'essentiel. Alors, apprendre la liberté. Apprendre la liberté veut dire j'obéis plus à Dieu qu'aux hommes. Acte. Pierre qui dit cela. C'est même valable pour le couple, hein? Obéir plus à Dieu qu'à votre femme. Et vice-versa, peut-être. Hein? C'est valable partout. Le premier devant lequel je porte ma responsabilité, c'est Dieu. C'est pour cette raison aussi que quand il y a eu la demande de Ruben de venir ici, la première chose que nous avons faite, Fleurette et moi, c'est de demander au Seigneur, « Seigneur, est-ce que c'est une œuvre préparée pour nous d'y aller ?» On a eu la conviction que oui, nous sommes là. Mais je n'aurais pas eu de difficulté de dire à Ruben, « Non, on ne vient pas. » Tout en sachant que peut-être ce sera une déception, etc., mais d'abord, porter notre responsabilité devant lui. Voilà, c'était un premier privilège, la liberté. Un deuxième privilège sous ce joug, c'est de pouvoir avoir une relation positive avec moi-même. J'aime pas tellement le terme qui est un terme biblique, s'aimer soi-même. Ou alors il faut expliquer ce que ça veut dire. S'aimer veut dire, je peux le traduire peut-être un peu, je me respecte, je me prends au sérieux, Mais m'aimer voudrait surtout dire me voir un peu avec les yeux de Dieu. Et Dieu me connaît très bien. Il connaît mes faiblesses. Il connaît mes penchants. Bon, on en a tous. Il connaît tout ça. Et là, ce matin, je crois qu'on a chanté ou ça a été mentionné, il nous aime quand même, et ce n'est pas vrai. Pour moi, ce chant, je ne l'aime pas, je vous le dis honnêtement. Parce que Dieu ne nous aime pas malgré le fait qu'il nous connaît, mais parce qu'il nous connaît totalement. Il connaît toutes choses. C'est ce que j'ai appris dans mon travail de relation d'aide. J'ai souvent eu des situations où les gens étaient là en disant « Écoutez, pas au premier entretien, hein, c'est clair, mais à la longue, quand ils avaient gagné confiance, écoutez, je vous apporte aujourd'hui quelque chose dont j'ai parlé à personne jusqu'à présent. J'avais trop honte. » Et pourquoi ils ont attendu si longtemps ? Parce qu'ils avaient peur de perdre mon amour, quelque part, mon respect. Et je peux vous assurer une chose, avec ces confidences que j'ai reçues, qui étaient souvent vraiment pas très belles, j'ai toujours aimé les personnes après plus qu'avant. Quand on connaît vraiment, on ne peut qu'aimer. Donc, quelque part, il nous connaît et c'est pour cette raison qu'il nous aime tellement, parce qu'il nous connaît. Alors, s'aimer soi-même veut dire « Dieu me connaît et je veux recevoir de lui aussi la correction. J'ai envie de grandir avec son aide, de ne pas rester celui que je suis. Mais comme il m'accepte tel que je suis maintenant, moi aussi, je m'accepte. Et je n'ai pas honte de ma personne. Je n'ai pas honte de ma fragilité. Je n'ai pas honte de ma faiblesse. » On apprend cela. Je n'ai pas honte, honnêtement, d'être devant vous dans une situation où je marche comme un peu handicapé. Je le sais, mais je n'ai pas honte. Ça fait partie de ma situation actuelle et ma valeur n'est pas touchée par cela. Elle est ailleurs. Donc, c'est ça, s'aimer soi-même. Et si vous êtes dans une relation positive avec vous-même, vous pouvez réellement être préoccupé par vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est clair ? Seulement celui qui s'accepte quelque part, comme Dieu l'accepte, peut être dépréoccupé de sa personne. Un troisième privilège, et ça aussi c'est quelque chose d'étonnant, c'est apprendre peu à aimer comme Dieu aime. Comment Dieu aime-t-il ? Je le décris comme, vous connaissez le terme grec, agapé. Il aime avec cet amour-là. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cet amour-là ? Ça veut dire que il aime parce qu'il aime. C'est-à-dire la raison de son amour n'est pas en moi. Sa raison pour son amour n'est pas dans ce que je fais. Sa raison pour son amour est dans son cœur. Il a un cœur aimant. J'appelle ça l'amour indépendant, indépendant de ce que fait le vis-à-vis, indépendant des réactions. Ouh, je sais. Je pourrais de nouveau parler du couple. Ma femme et moi, nous avons aussi des conflits. Je parlais tout à l'heure encore un peu des conflits, c'est normal. Vous avez le droit d'avoir des conflits autant que vous voulez. Je vous parlerai comment on les digère. C'est ça qui est l'essentiel. D'avoir des conflits, il n'y a aucun problème, mais il faut savoir les digérer. Alors, nous avons des conflits. Ça voudrait dire que ces conflits ne me dérangent pas. On pourrait parler de notre voyage hier. Il y a eu un conflit à un moment donné. Et j'ai même commencé à parler un peu fort. Et quelle est ma réaction après ? Ma réaction après, je crois que chez beaucoup d'hommes, c'est un peu la même chose. C'est une sorte de mutisme. Hein, je me tais. Je ne dis plus rien. Je la laisse parler. Mais dans ce mutisme-là, ou comme John White dit dans son livre là, sur les hommes et les femmes, quand on retourne un peu dans sa caverne hein, d'ours, là, il y a certains qui connaissent peut-être le livre, on fait quelque chose si on a envie. Et à travers ce qui se passe là, on peut arriver de nouveau à faire le pas, à rentrer quelque part dans cet amour indépendant. Et ça veut dire, elle a le droit de refaire la même chose dans 2 heures. C'est-à-dire, le but de celui qui aime comme Dieu n'est pas de changer l'autre pour qu'il soit plus commode à vivre avec. Le but est que l'autre change pour être plus heureux. Et ce n'est pas la même chose. Vous voyez un peu ? Amour indépendant. Maintenant, comment est-ce qu'on apprend cet amour indépendant ? Il y a une première chose qui a été pour moi une découverte, vraiment. Dieu met à notre disposition cet amour. Parce qu'il sait que de notre cœur, on n'arrive pas à le générer. On peut se donner de la peine et de la peine et de la peine et ça ne marche pas. On ne peut pas aimer de cette façon-là en serrant les dents un peu plus. Ça ne marche pas. Vous savez de quoi on a besoin pour pouvoir aimer ? Comme Dieu, d'entrer de nouveau dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ce qui se passe en moi, dans ma caverne, c'est de retrouver ma liberté intérieure. Cette liberté dont Paul parle dans Romains 8 comme la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est de ça que j'ai besoin. Et quand je suis de nouveau dans la liberté, il y a la paix qui s'installe et il y a la possibilité d'ouvrir la porte. Parfois, on n'a pas envie, mais on pourrait. Et là, il y a un élément intéressant. Il y a dans Philippiens 4, 15, 5, il y a un verset où Paul dit « Laissez, ça dépend un peu des traductions, laissez apparaître devant tous les hommes votre gentillesse. » Quand je lis un texte comme cela, ça me parle dans le sens de dire « Quoi ? Paul prétend que j'ai en moi une gentillesse envers tous les hommes. » Et le seul problème, c'est de la laisser apparaître. On a travaillé avec un couple où la femme avait toutes les raisons pour être vraiment méfiante, négative face à son mari. Elle a essayé de le suivre fidèlement dans une vie chaotique, incroyable. À un moment donné, elle en avait marre. On a fait une démarche avec eux. Et le mari faisait beaucoup de progrès, c'est vrai. Il changeait. Et la femme, elle restait quelque part sur sa position. Elle voulait lui repayer tout ce qu'il lui avait fait voir. On est tombé une fois sur Philippiens 4, 5, ce verset. Laissez apparaître. Et puis on a posé la question, est-ce qu'au fond, vous auriez en vous-même encore de la gentillesse envers votre mari? Paul prétend que ça devrait être le cas. Et puis, vous savez, quand on pose des questions difficiles aux gens, vous savez, ils n'ont parfois pas envie de répondre. Alors, elle se tordait un peu sur son siège. Et puis, elle disait, au fond, oui, Je dis, oui, il y aurait encore de la gentillesse envers votre mari dans votre cœur. Elle dit, oui. Je crois qu'elle était très étonnée elle-même de cette découverte. Et puis, je lui ai posé la question, mais est-ce que vous ne voudriez pas la laisser apparaître de temps en temps? Elle a dit, non, je ne veux pas. J'ai dit, merci pour l'honnêteté. Vous avez le droit de ne pas la laisser apparaître, mais il y a une chose qui est importante. C'est que vous ayez constaté qu'elle y est. Le moment viendra où vous aurez envie de la laisser apparaître de nouveau. Et c'est vrai, quelques semaines après, le moment est venu où elle avait envie de laisser apparaître. Qu'est-ce qui s'était passé en elle? Quelque part, à travers cette nouvelle création que nous sommes avec Jésus-Christ, il y a comme un dépôt de cette capacité d'aimer de Dieu qui est en nous. Il est là. Et peut-être que ce verset, Philippiens 4, 5, parlera à certains pour certaines situations. Et vous pouvez vous poser une fois la question, mais est-ce qu'au fond de moi, il y aurait encore de la gentillesse envers ce chef tellement impossible? Et je pense bien que si vous vivez dans cette relation avec le Seigneur, vous direz, c'est incroyable, c'est presque pas possible, mais c'est vrai, il y a quelque chose en moi qui pourrait l'aimer. Peut-être que le moment viendra où vous aurez envie de laisser apparaître. Je ne sais pas encore de quel moment, il faut aussi la sagesse. Comment est-ce qu'on laisse apparaître cela? Je ne sais pas si vous pouvez le prendre par l'épaule et dire, you're a wonderful guy. Je ne sais pas si c'est ça la manière, mais il vous montrera un peu. Comment laisser apparaître? Il y a encore une autre offre par rapport à l'amour. Paul parle dans Colossiens 3, 14, parle du fait que on peut venir chercher l'amour chez Dieu. Il dit dans Colossiens 3, 14, par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour. Et là, il y a de nouveau cette foi un peu enfantine que j'ai, comme vous pouvez constater. Je me suis dit, ben, pour finir, l'amour serait donc un habit qu'on n'a pas besoin de fabriquer soi-même? Dieu aurait-il un vestiaire où on pourrait chercher les habits qui nous manquent? La patience, la bienveillance. Et quand on est dans un travail à plein temps de la relation d'aide, c'est un énorme défi. Sans que j'aime le vis-à-vis, je ne peux pas travailler avec lui. Mais comment faire d'aimer les personnes qui sont face à vous? Et vous savez, il y en a qui sont agaçants, hein? Non, mais c'est vrai. J'avais marre de leurs histoires, je les connaissais. Je l'avais raconté X fois. Où j'avais l'impression qu'ils ne veulent pas avancer. Alors, comment faire pour les aimer? Et dans une citation concrète, quand je suis tombé sur ce texte de « Revêtez-vous », j'ai dit « Bon, je vais essayer ». Et le matin, avant cet entretien, j'ai dit au Seigneur, « Je n'ai pas envie de voir cette femme. Je ne l'aime pas, Seigneur. Ben, » oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis honnête devant lui. De toute façon, il me connaît. Il sait que je ne veux pas, que je n'ai pas envie. Alors, je peux aussi le reconnaître devant lui. Mais je sais que toi, tu l'aimes. Et tu l'aimes avec tout ton amour. Seigneur, moi, je suis nu. Je viens chercher ton amour pour elle. Et je revais ton amour sur ma nudité. Et déjà dans le premier entretien, j'ai ressenti en moi quelques élans émotionnels positifs envers cette personne. Mais ça ne suffisait pas, hein. J'étais encore un poulet plumé, hein. J'avais encore pas de plumes pour voler de mes propres plumes. Hein. J'ai dû faire cette même démarche 3-4 fois avant les rencontres suivantes. Et après, j'ai commencé à voir que les plumes de mon amour commençaient à pousser. Vous pouvez, hein? Le poulet commence à être remplumé un peu. Et à la fin, je vous dis, qu'est-ce que j'ai aimé, cette femme et son mari. Et je me suis investi pour ce couple comme pour peu d'autres, mais par amour. J'ai appris à chercher l'amour de Dieu quand j'en avais pas. Et j'ai vu que sous ce manteau de son amour, le mien commençait à se réveiller et à se développer. Je peux vous assurer, si vous voulez apprendre à aimer comme Dieu aime, de cet amour indépendant, c'est un des privilèges d'être sous ce joug. Vous arriverez à découvrir comment cela s'apprend. Et maintenant, vivre nos relations dans cela. Parce que vous savez, si notre amitié avec Dieu ne se transpose pas dans ce que nous vivons, il y a quelque chose qui cloche. Parce que cette amitié avec Dieu doit amener en nous une transformation au niveau de notre cœur. Et c'est là que le Seigneur est en train de faire quelque chose chez vous. Au niveau de votre cœur. Parce que du cœur sortent nos paroles, etc. Vous savez, à la longue, on ne peut pas fournir au niveau du comportement ce qui manque dans le cœur. On n'y arrive pas. Dans la relation d'aide, l'heure de vérité est la prière à haute voix. Quand quelqu'un prie pour vous, j'ai demandé la prière quand j'avais ce cancer. Qu'est-ce que j'ai pris comme gifle, mes amis, dans la prière? Parce que ce qui se traduit dans le moment de la prière, c'est l'attitude vraie de la personne face à vous et sa relation avec le Seigneur. Certaines personnes m'ont dit dans mon travail, ce qui m'a impressionné, c'est votre relation avec le Seigneur. J'ai dit, mais vous ne la connaissez pas. Si, pourquoi vous la connaissez, votre manière de prier? Donc, quelque part, c'est le cœur qui doit être transformé dans nos relations. Ce n'est pas apprendre la communication. C'est bien utile, mais c'est très limité. Je connais des couples qui avaient suivi tous les cours de communication et le couple éclatait quand même. C'est le cœur. Alors, il faut savoir un certain nombre de choses par rapport aux relations pour pouvoir les vivre. Une première chose que j'aimerais vous dire, c'est que vous avez la possibilité de vivre chacune de vos relations dans l'église, au travail, où que vous voulez, dans le triangle avec Dieu. Vous imaginez un triangle, vous, la personne en face de vous, et en haut, il y a Dieu. Et ce triangle, qu'on utilise aussi pour les couples, mais ça a un peu une autre signification dans le couple, parce que Dieu a une place spécifique, quelque part, dans le mariage, à travers l'alliance. À travers cela, vous commencez à voir dans toutes les relations deux voies de communication. Une horizontale, directe, et une à travers la pointe du triangle. Et quelles sont les choses qu'il faut passer par en bas et quelles sont les choses qu'il faut passer par en haut? La chose est simple. Simple à comprendre, je ne dis pas simple à faire. Hein? Ce qui devrait passer en bas, c'est ce qui construit le vis-à-vis. Parce que ce dont il a toujours le plus besoin, c'est d'être aimé, c'est même vrai pour votre chef. C'est de ça que la personne en face de vous a le plus besoin, à chaque instant. Et qu'est-ce qui devrait passer par en haut? Tout ce qui devient une sorte d'épine dans le pied de la personne. Tout ce qui le blesse, tout ce qui lui lance des choses à la figure qui ne sont plus un défi, mais un jugement. Toutes ces choses où vous défoulez en disant « il faut quand même qu'il le sache une fois ». C'est pas sûr que ce soit si important. Commencez à faire passer ces choses par en haut. Une femme m'a une fois dit, vous savez, depuis que j'ai commencé à faire cela, à lâcher prise sur mon mari, à vouloir le transformer selon mon image, et quand j'ai donné ça au Seigneur, il dit, alors Seigneur, chez moi il ne réagit pas, alors commence-toi à le transformer. Et maintenant il commence, c'est pas juste. Elle a compris que de passer par en haut, ce qui sort de l'autre côté, c'est vraiment un encouragement qui aura un impact positif sur la personne. C'est une première chose importante. Commencez à vivre vos relations, ou commencez à vivre une relation avec ce triangle. Il y a une deuxième chose que j'aimerais dire, et après il faut que je m'arrête. C'est vous dire clairement qu'une relation consiste toujours de deux relations. Je reviens au couple, j'ai ma relation avec ma femme. Et elle, elle a sa relation avec moi. Ces deux relations devraient devenir quelque part plus indépendante. C'est-à-dire, comme j'ai parlé de cet amour indépendant, il faudrait que ma relation envers elle devienne plus indépendante de sa réaction face à moi. Ce serait vraiment un but de grandir quelque part dans cette capacité de vivre ma relation avec elle dans l'amour sans être dérangé par ce qu'elle jette sur ma voie. L'image que j'utilise dans ma carrosse, par exemple, c'est l'image de l'autoroute. Nos relations, on les vit souvent comme des routes de campagne où il n'y a même pas un trait au milieu. Et on entre tout le temps en conflit parce qu'on porte faussement la responsabilité pour ce que l'autre fait. On s'est dit, ah, j'aurais peut-être pas dû dire cela si elle réagit tellement. Eh bien, non. Sa réaction, c'est sa part de responsabilité, c'est de son côté, mais comment moi je lui parle, ça c'est ma responsabilité. Et dans ces relations, c'est vrai aussi dans les conflits, on a toujours, chacun, 100% de responsabilité. On ne peut reléguer aucun pourcent à l'autre. Voilà. Je m'arrête là et on va faire notre pause. Dans la dernière partie, je voudrais commencer à... Je ne voudrais pas continuer l'enseignement. Je voudrais commencer à vous donner l'occasion de rassembler un petit peu la récolte de ce que le Seigneur a déclenché dans vos cœurs. Et j'aimerais vous inviter, vous encourager, vous expliquer aussi comment d'arriver à une décision aujourd'hui. Une décision qui portera du fruit qui demeure pour votre avenir. C'est ça le but de cette dernière unité que nous aurons encore cet après-midi. Mm-hmm.